Bonjour à tous. On est dans une période de l'année où, effectivement, on n'a pas beaucoup de lumière. Et ça a des effets sur notre organisme physique. Alors, je suis tombé sur un article de Santé Magazine de 2013 qui nous montre à quel point la lumière est précieuse pour notre morale comme pour notre santé. En fait, la lumière, déjà, elle pénètre dans notre organisme via les cellules de l'œil. Et du coup, ces cellules reliées au cerveau envoient l'information jour-nuit à notre horloge biologique interne. Donc c'est une petite zone du cerveau située près de l'hypothalamus. Et donc en fait, notre cerveau est calé sur un cycle de 24 heures et l'horloge biologique donne le tempo en envoyant des différents signaux au corps. Par exemple, le jour, l'horloge biologique entraîne la sécrétion d'hormones impliquées dans l'activité physique et cérébrale. Tandis que la nuit, les yeux perçoivent l'obscurité. Et le cerveau se met à fabriquer des hormones nocturnes, comme la mélatonine, qui favorise le sommeil. Et donc, il y a ces hormones et bien d'autres encore qui règlent en partie le rythme de notre organisme. Et du coup, on a tous besoin de lumière. La lumière, elle régule l'humeur. Et en période hivernale, il y a un certain nombre de personnes qui souffrent d'une baisse d'énergie, de motivation. On a même, il y a officiellement un trouble qui s'appelle le trouble de l'humeur saisonnier, qui a été mis en évidence par des chercheurs en 82, par le National Institute of Mental Health, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on propose pour ces gens qui souffrent de ce trouble de l'humeur saisonnier de se promener dès que possible à l'extérieur, utiliser des lampes halogènes 3 fois par jour, ou voire même carrément faire une cure de luminothérapie avec des expositions à des lumières qui sont le plus proches possible de ce que le soleil peut faire. On sait aussi que la lumière, elle augmente la vigilance. On se concentre beaucoup plus facilement dans une pièce qui est baignée de lumière qu'une pièce qui est éclairée faiblement. Et d'ailleurs, ce lien entre lumière et vigilance, c'est utilisé depuis plusieurs années dans les usines pour améliorer les performances et diminuer les accidents. Et on a même remarqué que la lumière, elle aide à rester éveillé lors de la conduite de nuit. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de la lumière, c'est la couleur. On sait que, en fait, l'effet d'éveil est maximum avec la lumière bleue, donc c'est celle qu'on a au petit matin en général, même lorsqu'elle n'est pas de très grosse intensité. Donc voilà, pour la conduite de nuit, il faut régler votre écran de GPS sur le mode nocturne qui émet de la lumière bleue, et comme ça, ça va vous aider à rester concentré sur la route. La lumière, ça régularise aussi le sommeil, puisque en fait... notre sommeil dépend de la sécrétion de mélatonine. En fait, c'est une hormone qui est produite que quand on est dans l'obscurité dès la tombée de la nuit. Et c'est cette hormone qui entraîne la sensation de fatigue, qui abaisse la vigilance et qui nous prépare normalement à dormir. Alors évidemment, si on a trop de lumière autour de soi, c'est plus difficile de sécréter de la mélatonine et du coup, c'est plus difficile de s'endormir paisiblement. La lumière, ça donne aussi de l'énergie. En fait, le simple fait de voir la lumière du jour tôt le matin, ça active la sécrétion de cortisol. C'est une hormone qui est indispensable à être en bonne forme. Par exemple, tout notre corps réagit à cette hormone, par exemple, quand il fait nuit, la température corporelle elle diminue légèrement, tandis que le jour, elle augmente et elle est programmée pour être à 37 degrés. C'est l'idéal pour que les muscles, par exemple, ils fonctionnent de façon optimale. La lumière, ça renforce aussi la solidité des os et le système immunitaire via la vitamine D. Et la vitamine D, en fait, on l'acquiert comment ? En étant simplement exposé au soleil. Ça accroît l'activité des globules blancs qui digèrent les microbes. Ça favorise la production d'anti-infectieux. Ça aide à la minéralisation... osseuse. Quelle idée j'ai été de récupérer cet article. C'est même associé à un risque plus faible de certains cancers et d'accidents cardiovasculaires, la vitamine D. Et en fait, simplement pour avoir de la vitamine D, il faut s'exposer les mains, les avant-bras, le visage, 5 à 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, tout au long de l'année. Et ça aide à synthétiser la vitamine D. Ça, c'est pour plutôt un adulte à peau claire et en bonne santé. Si on a la peau plus foncée, il faut plus, normalement. Voilà, donc ce qui explique que peut-être que quand vous avez la peau plus foncée, vous souffrez peut-être plus du manque de soleil que ceux qui ont la peau plus claire. Et par contre, les lampes de luminothérapie, ça aide pas pour la vitamine D. Il n'y a pas d'UV, donc ça marche pas. Après, on peut prendre de la vitamine D de façon artificielle. Mais enfin, ce n'est pas l'idéal. Toujours est-il que la lumière, c'est indispensable à la vie. C'est indispensable à notre organisme, physiquement. Et ça, c'est la lumière naturelle, physique du soleil pour notre corps. Mais moi, j'aimerais qu'on parle ce matin d'une autre lumière qui est aussi tout aussi indispensable à notre vie. Pas de façon physique, mais notre vie de façon spirituelle, pour notre esprit. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage qui est tiré du livre du prophète Ésaïe. En fait, on est dans la période qui précède Noël, qu'on appelle l'Avent. Et une des caractéristiques de Noël, de Jésus, c'est qu'il est la lumière. Et j'aimerais vous lire Ésaïe à partir du chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre suivant, verset 6. J'entends encore des feuilles qui se tournent. Je vous attends. Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si, dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays, dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours, au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. On termine là notre lecture. Et puis je vais prier pour que le Seigneur nous aide à bien comprendre sa parole et qu'elle soit un encouragement, un éclairage aussi pour nous aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour cette parole qui est parvenue jusqu'à nous, qui a été écrite il y a bien longtemps par le prophète Ésaïe. Et merci parce que cette parole, elle nous révèle qui tu es, quel est ton plan, qui est Jésus-Christ. Et Seigneur, je te demande que cette parole, elle puisse encore nous toucher aujourd'hui, qu'elle puisse nous encourager, nous fortifier, nous reprendre, nous permettre de mieux te connaître. Et merci parce qu'elle est à notre disposition, qu'on peut librement l'ouvrir, la lire et s'en nourrir. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Ce texte qui est connu par, et qu'on lit souvent dans cette période de l'Avent, j'aimerais qu'on puisse le regarder ensemble de plus près, qu'on comprenne dans quel contexte il a été écrit, qu'est-ce qu'il voulait dire pour les personnes qui l'ont lu à l'époque, qu'est-ce qu'il veut dire aussi pour nous aujourd'hui. Et finalement, ce texte, il parle de Jésus comme roi. Et puisque Jésus... Et le roi, eh ben, laissons-le régner dans notre existence, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Laissons-le nous faire passer des ténèbres à la lumière, laissons-le nous faire passer de l'oppression à la joie. Attendons avec confiance qu'il vienne instaurer sa paix et sa justice pour toujours. Alors, peut-être un petit mot de contexte. Comme je suis un peu fan d'histoire, je vous raconte un peu l'histoire. Le ministère du prophète Ésaïe, il a commencé vers 740 avant Jésus-Christ et il s'est déroulé pendant une période troublée de l'histoire d'Israël. Le peuple est alors divisé entre Juda au sud, donc ce que vous voyez en bleu, et puis les tribus du nord, le reste des tribus d'Israël, en mauve, c'est ça qu'on dirait ? Mauve, violet ? Violet clair ? Bon, voilà. À l'époque, la puissance dominante de toute la région, parce que là on fait un zoom sur le pays d'Israël qui est tout petit, mais si on dézoome, la puissance dominante c'est les Assyriens, dont la capitale est Ninive, ou Mossoul, maintenant aujourd'hui en Irak. Donc Mossoul c'est, si vous voyez, bon bref, au milieu du croissant, non mais voilà, en gros c'est là. Ah, voilà, j'avais que ça à montrer, hein, donc, mais merci. J'ai pas pensé. En fait, ce qui se passe, c'est vers 735 avant Jésus-Christ, les tribus du Nord et puis les Syriens, dont la capitale est Damas, c'est toujours le cas aujourd'hui, proposent à Juda de s'allier pour contrer la menace assyrienne. Et Juda refuse, et alors du coup, ils attaquent Juda et ils cherchent à envahir Jérusalem. Et donc, parmi le peuple de Juda, c'est la panique générale. D'ailleurs, on voit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 2, quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Tout le monde se met à trembler. Ésaïe rencontre alors Ahaz, le roi de Juda, pour le persuader de ne pas céder à la peur et de faire confiance à l'Éternel. Et il propose à Ahaz de demander un signe à Dieu. Et le roi refuse, avec une réponse un peu, on va dire, pseudo-pieuse. Il dit « Non, je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Ça, c'est Ésaïe 7, chapitre 7, verset 12. Mais en fin de compte, ce roi, il avait déjà fait son choix. Et en fait, la foi ne joue absolument aucun rôle dans sa politique. Et il préféra plutôt chercher une alliance avec le roi des Assyriens lui-même, Tiglath-Pileser, de son petit nom. Et du coup, il va même indiquer qu'il va ordonner de modifier le temple, on voit ça dans le livre des Chroniques, pour plaire à ce nouvel allié. Il va même offrir des sacrifices, brûler des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, qui étaient interdits par Dieu. Il va même jusqu'à brûler l'un de ses propres fils. Donc il fait vraiment n'importe quoi. Alors qu'en fait, en tant que roi, il aurait dû être un exemple et un modèle pour son peuple. Et quel genre d'alliés vont être ces Assyriens ? Ils vont finir par se retourner contre Juda, hein, évidemment. C'est la puissance dominante. Un petit peuple comme ça, on se le met dans la poche, on l'envahit finalement. Hein. Et finalement, même Ésaïe, en réponse à l'incrédulité du roi de Juda, avait annoncé l'invasion de Juda par les troupes assyriennes. Et donc c'est dans ce contexte dramatique que Dieu donne son propre signe par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe 7... versets 13 à 17, Ésaïe dit « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. » Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il y en a eu tel depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. » Et en fait, le contexte est bien sombre. Si on lit juste avant le passage qu'on vient de lire, Ésaïe chapitre 8, versets 19 à 22, il est question de personnes qui font de la voyance, du spiritisme, qui consultent les morts, toutes sortes de pratiques condamnées par Dieu. Et en fait, le peuple est dans la détresse. Il ne sait plus dans quelle direction aller, à qui se vouer. Le peuple est dans l'obscurité, dans les ténèbres de l'angoisse, dans la nuit la plus noire, sans espoir d'aurore. Et on en est là. Et le passage qu'on vient de lire, il commence par un petit mot. Mais... Et là, on va voir, puisque Jésus est le roi, laissons-le d'abord nous faire passer des ténèbres à sa lumière. Et à partir de ce mais, il y a une perspective radicalement différente, une promesse d'une aurore qui est annoncée par le prophète. Il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. » Et là, on nous a parlé de Zébulon et de Nephtali. Zébulon et Nephtali, c'était les territoires au nord d'Israël. Et Nephtali, à l'époque, avait déjà été envahi par les Assyriens. Et effectivement, c'était un territoire qui était humilié, déshonoré. Et ce que dit le prophète, c'est que cette humiliation, ce déshonneur, il ne va pas durer. Il y a un moment où Dieu va couvrir de gloire ce pays-là. Alors la route de la mer, c'est la rive occidentale du lac de Tibériade. Si on remonte juste, je ne sais pas si vous voyez le petit lac bleu là au milieu, là, au milieu du violet. Donc la route de la mer, c'est la route qui monte le long du côté ouest de ce lac. Et le territoire de Zabulon, c'était aussi, enfin c'est en dessous de Nephtali, mais c'est aussi dans le nord. Et puis le district des nations païennes, des gentils, des non-juifs, au temps des Romains, ça s'est appelé quoi, cette zone-là? Ça s'est appelé la Galilée. C'était le nord, finalement, de là où habitait le peuple juif. Alors c'était une région qui était finalement éloignée de Jérusalem, qui était entourée de trois côtés par des nations païennes, par les Phéniciens, par les Syriens. Elle était particulièrement exposée aux invasions, et finalement, c'était une zone un petit peu reculée, méprisée par la capitale, la grande ville, Jérusalem. Et même au temps de Jésus, on avait peu d'estime hein, pour cette région. Puisque quand, dans l'évangile de Jean, quand Nathanaël apprend qu'il y a un prophète qui vient de Nazareth, il dit « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Et puis pareil, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, quand il y a une discussion avec les pharisiens, ils répondent « Es-tu toi aussi de la Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures, tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Bon, en fait, ils n'avaient peut-être pas très bien lu, hein, puisque là, on a quand même un passage qui nous dit que dans cette région qui est un peu méprisée, couverte, qui est humiliée, couverte d'opprobre, il va se passer quelque chose. Et l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 13 à 16, il réutilise ce passage du prophète Ésaïe. On dit des fois que c'est le cinquième évangile. Et finalement, c'est vrai que la part la plus importante du ministère de Jésus, elle s'est passée où ? Elle s'est passée en Galilée, dans cette région du nord d'Israël, sur ces territoires qui avaient été attribués aux tribus de Nephtali et de Zabulon. Et le camp de base de Jésus, c'était Capernaum, c'était une ville au bord du lac, de ce fameux lac de Galilée. S'il y a en tout cas une chose dont on peut se rendre compte, c'est que les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. Ces prophéties, elles s'accomplissent. Même celles qui vont peut-être à l'encontre de nos croyances ou de nos préjugés. En l'occurrence, personne ne pensait que de ce nord, de cette région méprisée et humiliée, allait sortir quelque chose de bon. Et pourtant, c'est là que Jésus a fait une bonne partie de son ministère. Finalement, ces ténèbres, c'est le monde qui est livré au mal en l'absence de Dieu. C'est un monde qui est triste, qui est angoissant, qui est dominé par le mal, les conflits, l'égoïsme, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir et d'autres choses. Et par contre, ce que nous dit le prophète, c'est qu'il n'y aura pas pour toujours des lumières dans le pays envahi par l'angoisse. Le peuple, qui vivait dans ces ténèbres, verra briller une grande lumière, et la lumière resplendira sur ceux qui habitaient ce pays dominé par d'épaisses ténèbres. Jésus a dit lui-même qu'il était la lumière. Et si je laisse ma vie éclairée par Dieu, par Jésus, si je vis dans la vérité, que je laisse Dieu m'éclairer par sa parole, j'ai plus à craindre ces ténèbres, à vivre dans l'angoisse. Le diable ne peut plus m'attaquer, me reprocher quoi que ce soit. Je n'ai plus de raison d'avoir peur du mal ambiant autour de moi. Et je suis sur la protection de Dieu. C'est lui qui me donne le casque du salut et le bouclier de la foi. Quand on voit le contexte peut-être d'aujourd'hui, on pourrait se dire que, effectivement, on vit dans un monde de ténèbres. Il y a des tas de choses dramatiques qui se passent autour de nous. On entend des bruits de guerre. On voit des gens qui sont uniquement attirés par le profit. Qui font aucun cas de l'humain. On massacre. On tue des bébés dans le ventre de leur mère. Finalement, c'est un peu la même chose que ce roi, hein, qui avait brûlé son fils. Et ça peut être angoissant. Et c'est vrai que le monde qui est livré au mal, en l'absence de Dieu, c'est quelque chose de terriblement angoissant. C'est triste. Mais par contre, Dieu nous offre sa lumière à travers Jésus-Christ. Et c'est une lumière qui peut complètement changer notre façon de voir. On va continuer dans notre texte. Les versets 2, 3 et 4 nous parlent d'autre chose, qui est un complémentaire. Puisque Jésus est le roi, on peut le laisser nous faire passer de l'oppression à sa joie. Il y a un contraste dans ces trois versets, entre la joie qui jaillit et que l'Éternel utilise dont l'Éternel est la source. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le verset 2. Alors moi j'ai « Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse », ça c'est une traduction. Après, dans le texte hébreu traditionnel, il y a « Tu as fait s'accroître le peuple ». Bon, l'idée de l'accroissement du peuple, c'est une idée de bénédiction. Mais après, finalement, on voit trois fois dans ce verset 2 qu'il est parlé de joie. « Tu fais jaillir une très grande joie et on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. » Ésaïe, il insiste là. Ce que Dieu veut apporter à travers le Messie, à travers Jésus-Christ, c'est la joie. Et c'est l'Éternel qui agit à travers ça. C'est l'Éternel qui brise le joug, le bâton, le gourdin, tous ces instruments d'oppression. Et Ésaïe, il parle de « car le joug qui pesait sur toi, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette histoire de défaite de Madian ? C'est l'histoire de Gédéon. Ça, c'est une histoire qu'en général, quand on est gamin, on aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien ces histoires de bataille, en fait. En plus, c'est quand même un truc de dingue. Il avait 20 000 hommes au début, Gédéon, pour se battre contre les Madianites, qui étaient un peuple qui venait faire des radias. Et finalement, Dieu trie ses hommes. Il se retrouve avec 300 hommes, c'est-à-dire pas grand-chose. Ces hommes, ils sont armés de quoi ? De torches, de cors et de cruches. Bon, ça, c'est des super armes. Hein. Et en fait, à travers ces 300 hommes armés de torches, de cors et de cruches, l'Éternel accorde une victoire éclatante, totale. En fait, ils sont surpris pendant la nuit, ces Madianites, dans leur camp. Et du coup, pris de panique, ils s'entretuent et puis ils s'enfuient. Et finalement, c'est l'Éternel qui a agi, hein. Gédéon et ses troupes et ses 300 hommes, ils n'ont pas fait grand-chose à ce moment-là. Mais Gédéon, il va continuer à les poursuivre jusqu'au nord et il va les chasser, aidé justement par ces tribus du nord, hein, Aser, Nephtali et Manassé. Donc Nephtali, on en parle encore. Et l'oppression, elle est terminée. Et le prophète rappelle cet épisode où Dieu a particulièrement agi dans l'histoire du peuple pour leur dire « Si Dieu il a agi de cette façon-là à ce moment-là, c'est le même, ça reste le même. Il peut agir de la même façon. Même si ces Madianites paraissaient une puissance supérieure qu'ils n'arrivaient pas à combattre, Dieu a permis qu'à travers cet épisode, ils soient chassés. Et donc finalement, la Syrie, même si c'est un grand empire, de la même manière, on peut faire confiance à Dieu. Et nous, de la même manière, hein, lorsqu'on est au fond du trou, dans une situation dont on ne voit pas l'issue, qu'on est peut-être angoissé par quelque chose qui nous attend, on peut se souvenir que l'Éternel a déjà fait en notre faveur. Ça me rappelle un exemple personnel. Là, notre voiture commence à être vieille. Elle a 12 ans, elle a 250 000 km. Elle se déglingue un peu de partout. Là, à chaque fois, on va chez le garagiste, Christelle pleure parce qu'il faut sortir 1 000 euros, machin. On se dit, mais punaise, c'est un puits sans fond, cette voiture. En plus, j'ai abîmé l'aile il y a 15 jours. Enfin, bon, bref. Et puis, en même temps, là, on voit nos garçons qui grandissent et on se dit, punaise, bientôt, il n'y aura plus de place pour les mettre dans cette maison. Il faudrait qu'on trouve un moyen de trouver un peu plus d'espace parce que sinon, c'est vraiment les uns sur les autres. Et puis finalement, je me suis rappelé, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Il y a 10 ans, on vivait dans une petite maison, très sympathique au début quand on s'est mariés, mais quand on a eu notre 4e enfant, là, ça n'allait vraiment plus. Il y avait que 3 chambres, toutes petites, il n'y avait pas d'espace. Il y avait un minuscule cellier dans lequel on mettait le congélateur, les vélos, les outils, le garde-manger, les chaussures. Et j'angoissais un petit peu, je me disais, punaise, comment on va faire? Je ne voyais pas de solution. Et puis pareil, on avait une petite voiture, avec 4 enfants, ça n'allait pas, quoi. Et puis en fait, toutes les circonstances se sont passées. L'Éternel a permis que j'ai juste une augmentation au moment où il fallait pour qu'une banque nous prête assez d'argent pour qu'on puisse vendre la maison, le même jour en acheter une nouvelle, parce que les banques ne voulaient pas qu'on fasse de prêt-relais. Et puis il nous restait juste assez d'argent pour acheter une nouvelle voiture, qu'on a trouvé dans les semaines qui ont suivi. Enfin, tout s'est déroulé de façon tranquille, quoi, finalement. Et là, je me dis, si je me rappelle de cet épisode d'il y a 10 ans, j'ai pas de raison de m'inquiéter aujourd'hui pour des choses qui sont finalement similaires. Et Dieu, il n'a pas changé dans ces 10 ans. Donc, il va aussi s'occuper de cette situation. Donc, finalement, voilà. Ça fait du bien de se rappeler de ce que Dieu a fait, parce qu'il peut continuer à faire la même chose, hein. Alors, ce n'était pas des histoires de voitures et de maisons, en l'occurrence. Je pense que c'était bien plus dramatique pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Mais voilà, en se rappelant de ce que l'Éternel avait fait à travers Gédéon, il pouvait se dire, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu vas pouvoir nous délivrer de la libération du joug assyrien. Et d'ailleurs, Esaïe, il en parle, il dit au chapitre 10, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, ce gourdin dans sa main et l'instrument de ma fureur. » Mais au chapitre 14, le Seigneur des armées célestes a juré par serment, ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai la Syrie dans mon pays, je la piétinerai sous mes montagnes, j'écarterai de vous le joug qu'elle vous imposait, j'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Telle est la décision que l'Éternel a prise contre la terre entière, telle est la menace qu'il adresse à toute nation. Le Seigneur des armées célestes a pris sa décision, qui pourrait l'abroger ? Sa menace est lancée, qui la détournerait. Alors, Judas, entre-temps, il allait bien être envahi par les Assyriens, et puis encore par d'autres puissances, hein, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Alors, il y a une chose qu'il faut se dire, hein, les promesses de Dieu, elles ne nous garantissent pas l'absence d'épreuves ou de difficultés. Il y a des moments où Dieu nous fait passer par des épreuves, il a des choses à nous apprendre à travers elles, donc bon. Mais par contre, les promesses de Dieu, elles nous garantissent, elles nous permettent de voir au-delà de ces épreuves qui nous bouchent la vue. Et c'est ce que fait le prophète Esaïe. Il dit, mais alors peut-être que là, vous êtes dans le noir, peut-être que vous êtes dans les ténèbres, mais l'Éternel a prévu quelque chose bien au-delà de ça. Il a prévu d'emmener la lumière, il a prévu de vous donner la joie, une vraie joie, même si pour l'instant, vous êtes sous le joug de la Syrie, sous son bâton. Alors, pour les premiers auditeurs d'Esaïe, cette libération promise, elle résonnait, parce qu'elle leur disait, ce joug assyrien, il ne va pas durer. Mais en fait, ça annonce bien plus que ça, hein. Et on le voit à partir du verset 4. Puisque Jésus-Christ est le roi, attendons avec confiance qu'il vienne instaurer sa paix et sa justice pour toujours. Et là, en écho à ce qu'on a lu de Esaïe chapitre 7, verset 14, où il est question d'une vierge qui deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Là, le prophète, il en dit un peu plus. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours, au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ce que dit le prophète, c'est qu'un nouveau roi sera donné au peuple, et que ce nouveau roi viendra comme un enfant. Quand on regarde un peu en détail, on voit que c'est quelqu'un qui va naître, qui exercera l'autorité royale. Jusque-là, bon, c'est normal. Si c'est un roi qui va venir délivrer, ok. Et après, on lit les titres que ce roi va avoir. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Oui, ou merveilleux conseiller, ouais. Ça dépend des traductions. Il y en a qui mettent merveilleux et conseiller dans une... Il n'y avait pas les virgules à l'époque. Donc, on n'a pas... Il y a 4 ou 5 titres. Ce mot merveilleux ou admirable, c'est le même mot qui est utilisé par l'ange de l'Éternel quand il se présente au père de Samson. L'ange de l'Éternel, il dit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ce conseiller... Moi, ça me fait penser à ce verset de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens qui dit « En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Et puis après, le terme suivant, « Dieu fort » ou « Dieu puissant », finalement, ce roi qui va venir, c'est bien plus qu'un roi, c'est Dieu lui-même. Après, il y a ce titre « Père à jamais » ou « Père éternel ». C'est bizarre, hein, donc on parle d'un enfant, c'est un peu paradoxal, parce qu'on parle d'un enfant, et en même temps, le nom ou le titre qu'il va avoir, en plus c'est un enfant qui n'est pas encore né, c'est Père éternel, ou Père à jamais. Ça dit bien que c'est quelque chose de plus que juste un enfant ou même un roi humain. C'est en fait bien de Dieu dont il s'agit. C'est Dieu lui-même qui va venir, qui va s'incarner comme un enfant. Et il sera prince de la paix. C'est lui qui va emmener la tranquillité, la prospérité au milieu de son peuple. Ensuite, au verset 6, on voit les caractéristiques de cette royauté nouvelle. Déjà, c'est une royauté de la lignée de David, de la famille de David. Et c'est ce que Dieu avait promis à David, que sa royauté elle, allait durer éternellement. C'est une royauté qui va instaurer la paix, qui va être fondée sur le droit et sur la justice. Alors ça, déjà, on n'en a pas beaucoup des royautés comme ça humaines, hein, qui instaurent la paix et qui sont fondées sur le droit et la justice. Et ce qui est intéressant avec cette royauté, on voit au verset 6, au début, il instaurera la paix qui durera toujours, et puis sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. C'est quelque chose qui va durer éternellement. C'est au-delà d'un roi humain, hein. Puisque un roi humain, il va peut-être régner 40, 50, 60 ans pour la reine d'Angleterre. Mais au bout d'un moment, il meurt. Mais là, cette royauté, c'est une royauté qui va durer toujours, dès maintenant et pour l'éternité. Ce roi, c'est bien Jésus-Christ, de la lignée de David, Dieu au milieu des hommes, venu pour instaurer la paix, le droit et la justice. Alors, Jésus est venu, il y a 2000 ans. Il est venu apporter le royaume de Dieu, qui n'était pas un royaume politique, mais qui était un royaume, en fait, où les citoyens de son royaume sont transformés de l'intérieur. Et puis, ce n'est pas un territoire physique sur la terre, mais c'est chacun des sujets de ce royaume sont des hommes et des femmes dispersés partout sur la surface de la terre. Mais finalement, cette prophétie, elle n'est pas complètement accomplie. Le règne de Jésus-Christ, il n'est pas encore visible aux yeux de tout le monde. Ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'après la résurrection de Jésus, il a été élevé par Dieu, qu'il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Donc c'est un monde que nous, on ne perçoit pas. Mais en fait, à la fin du Nouveau Testament, il est dit que tout œil le verra lorsqu'il reviendra. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il va régner, il va juger avec équité, il va combattre pour la justice. Tout genou fléchira devant lui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore perçu. C'est une prophétie qui ne s'est pas encore complètement accomplie. Mais comme toutes les autres prophéties qui sont déjà accomplies, ben, il n'y a pas de raison que cette nouvelle ne s'accomplisse pas. Et notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, elle n'est pas fondée sur des idées humaines, mais elle est fondée sur la parole de Dieu. Qu'un jour, la paix et la justice régneront. En fait, Jésus est déjà venu, mais son règne n'est pas encore rendu visible pour tout le monde sur cette planète. Ça veut dire qu'on a encore une fenêtre là, une fenêtre de tir, un temps de grâce, pour se poser la question. Est-ce que Jésus-Christ, il est mon roi ou pas? Est-ce que je suis un citoyen du royaume des cieux? Jésus, c'est un roi qui ne s'impose pas. Il veut qu'on le choisisse pour être notre suzerain, pour qu'on soit un de ses sujets. Du coup, la question se pose aujourd'hui, et on a cette grâce-là de pouvoir se la poser. À qui est-ce que je vais faire allégeance? À quel roi je veux me soumettre? De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes soumis à quelque chose. Si on se croit libre, ben on est soumis à son égoïsme. Hein. Et ça fait des dégâts. Et pourquoi Dieu a-t-il élaboré ce plan? Pourquoi est-ce qu'il a parlé à travers la bouche de ce prophète il y a 2700 ans? Pourquoi est-ce qu'il a élaboré ce plan de salut? Ben, on le voit à la fin du verset 6. C'est ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Dieu a un amour passionné pour ses créatures. Et donc, il leur dévoile son plan, il leur montre qui il est. Il nous dit que les circonstances peuvent être difficiles, mais que lui les maîtrise, qu'on peut passer par des épreuves, des fois être dans des situations où on est dans l'angoisse ou dans les ténèbres, où on ne sait pas où on va, mais lui, il est la lumière. Il est celui qui veut nous apporter la joie, alors qu'on peut se sentir opprimé. Il est celui qui veut être notre roi, notre merveilleux conseiller, notre Dieu fort, notre Père à jamais, notre prince de la paix. C'est à nous de choisir si on veut se mettre sous sa souveraineté. Ben, je vous garantis que ça vaut le coup. Il n'y a pas de meilleur maître ou de meilleur roi que celui-là. Et finalement, à qui je veux donner la couronne de ma vie? À qui je veux la rendre? Est-ce que je veux la garder sur ma tête? Ou la mettre à la disposition du profit, de la gloire, de l'argent, de la renommée, de la bonne, de la bonne réputation, ou de la réputation tout court? Ou alors je veux la donner à celui qui est le vrai prince de la paix, celui qui saura me conseiller, celui qui m'aime vraiment, qui veut être mon père, à jamais. Ben, je vous laisse la question entre les mains, c'est à vous de répondre. Et en tout cas, moi j'ai choisi, et je ne le regrette pas, et je sais que je ne le regretterai pas. Je vais encore prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui vient éclairer nos vies. Tu es celui qui veut nous éclairer par ta parole. Seigneur, je te demande que, c'est vrai, tu sois vraiment le roi de nos vies, que nous te laissions la première place. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses dans notre vie où on doit se poser la question, qui est-ce qui dirige, qui tient le volant, qui a l'honneur, qui a la gloire? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour toi? Et Seigneur, merci parce que nous sommes dans ce temps de grâce où on peut encore choisir de te faire allégeance, de te soumettre nos vies. Et merci parce que cette parole, nous savons qu'elle va s'accomplir un jour, qu'un jour tu reviendras dans ta gloire et que tu règneras, que toute crainte, toute peur, toute tristesse, toute difficulté seront abolies. Et merci de nous faire ce rappel en cette période de Noël où on fête la venue du Sauveur. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un Sauveur quand on regarde l'humanité qui nous entoure. Et merci parce que tu es celui qui veut combler, remplir nos vies et lui donner un sens. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.